30 ans de prêtre cette année. Je suis père de la mission de Saint-Vincent-de-Paul. J'ai travaillé 4 ans en Tarn-et-Garonne. C'est pour ça que je connais un peu la région. Puis je suis parti 4 ans très haut placé. En Bolivie, à 4000 mètres d'altitude, j'étais haut placé. Puis quand je suis arrivé à Marseille. Il fait que m'en écurie aux crottes. Si je m'en pas 4000 les crottes, j'aurais tout fait en l'église. Les crottes, c'était un quartier proche de l'eau. Il y avait des grottes bord de mer. Je dis crottes. Moi, je travaillais dans les quartiers nord, avec toutes les questions des quartiers nord. Puis j'ai passé 9 ans au service des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Et donc quand j'ai quitté le quartier nord, les musulmans me disaient, mais monsieur, voyez, l'État ne faisait pas confiance, l'Église non plus, vous quittez nos enfants, qu'est-ce qu'on doit devenir? Et je me confie 400 femmes. 400 femmes? Un point que le roi David, j'espère que je ferai aussi bien. Je n'aurais pas dit mes femmes, allez voir 81 ans de moyenne d'âge. Et j'ai fait 9 ans avec les sœurs. Puis ensuite, je suis parti 4 ans. Mon supérieur général me voulait en Tunisie, et mon régional me voulait à Dax. J'ai écouté régional parce qu'on a voulu faire redémarrer le centre de pèlerinage du lieu natal de Saint-Vincent-de-Paul. Où passent 10 000 personnes par an, cette année les mois passés, et 800 jeunes d'avril à juin. Donc on a repensé l'équipement des jeux pour les jeunes, les expositions pour les adultes, voilà, on a réorganisé le lieu. Et pendant mon temps à Marseille, j'ai commencé à travailler avec l'association Devenir en Christ. Et donc j'ai animé le groupe PACA pendant 10 ans, et comme l'association me trouvait sympathique et comique, ils m'ont confié les prêtres concernant l'homosexualité. Et donc j'ai commencé à vouloir travailler, à les accompagner par Internet. Et tout compte fait, on a abouti à créer un groupe qui s'appelle Tendre vers l'unification, qui continue encore et qui se réunit une fois par trimestre sur Paris, moitié religieux, moitié diocésain, pour aider les prêtres à accueillir ceux qui sont et vivre sérieusement leur orientation, puisque si on s'aime comme on est, on peut vivre plus à l'aise. Et c'est pour ça l'Église a du travail à faire encore. Et on parle aujourd'hui de la pastorale, comment la pastorale la voir. Alors, ce qui est beau, c'est que vous connaissez les 4 mots clés d'Amoris Laetitiae, l'encyclique de la. Du synode des familles, j'en parlerai tout à l'heure dans la présentation. Le pape propose qu'on travaille toujours avec 4 mots-clés en église, en communauté chrétienne, toutes les communautés chrétiennes. On accueille les personnes qui frappent à la porte, on accompagne leurs demandes, on discerne ce qu'on peut faire et on intègre les 4 questions. Et alors je dis, on peut se rendre compte que l'église, par les associations, il y en a 5 en France qui existent, qui travaillent auprès des homosexuels. Vous avez une association militante, mais sans vous les présenter à la fin, je ne m'étale pas. Et puis après, depuis 2016, il y a une trentaine de diocèses qui ont commencé à mettre des instances en place pour accompagner les personnes. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois associatif, des chrétiens qui s'associent pour accompagner, et puis les églises qui disent qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose, qu'on réfléchisse. Et autour de ces 4 mots qui sont importants, accueillir, ouvrir la porte quand on frappe à la porte, accompagner la personne dans sa demande, discerner ce qu'on va faire avec et intégrer si on arrive à le faire. Et alors, je vais parler de 4 petits exemples marrants ou tristes, suivant comment on les regarde, suivant qu'on est plus classique ou plus dans la vie quotidienne. Par exemple, on m'a appelé il n'y a pas longtemps un diacre de Marseille qui s'occupe de la pastorale des homosexuels. Il me dit, je voudrais te mettre en lien avec un prêtre, un jeune prêtre africain, qui fait un travail pour la Cato de Toulouse et sur comment les nouvelles demandes pastorales sont accueillies. Est-ce qu'il y a des demandes de bénédiction de couples de même sexe? Est-ce qu'il y a des demandes d'enterrement de personnes vivant en couple? Est-ce qu'il y a des demandes de baptême de GPA? Il a envoyé 120 questionnaires à tous les prêtres. Aucun ne leur a répondu. Moi, j'ai passé 15 ans. Je sais que des prêtres ont déjà fait le baptême de GPA, que d'autres ont enterré des personnes vivant en couple homosexuel, que d'autres ont baptisé des personnes vivant en couple homosexuel. Alors je vais donner les pistes, je dis, va telle paroisse, le curé ne l'a pas dit, eux te diront les gens de la paroisse, telle personne te le dira, pour qu'il puisse avoir son travail. Ça veut dire que, vous voyez, ils ont accueilli, ils ont accompagné, ils ont discerné, ils n'ont pas été capables d'intégrer dans leur pratique. Ils ont fait personnellement en cachette, ils ne veulent pas que ça se sache. Et c'est terrible parce qu'ils ne permettent pas que ça avance la question, ils ne permettent pas qu'on continue à dire où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va aller. D'autres petites questions comme ça par rapport à ça. On me raconte il n'y a pas longtemps, un jeune, en couple avec son copain, une paroisse, il y avait la communauté Saint-Martin. Et il va voir le curé Saint-Martin, il dit, tu sais pas, je retrouve la foi, est-ce que je pourrais me baptiser, je peux baptiser? Alors il dit, oh bien sûr, si tu veux, il dit, et tu fais quelqu'un, oui mon copain. Il dit, c'est pas grave, on te prépare le baptême. Le gars de la communauté Saint-Martin l'a baptisé en sachant qu'il est avec son copain. Donc le garçon tout content, baptisé, communié. Il se met à la chorale. Et au bout de 5 ans, la chorale dit, mais t'es pas confirmé, il faut être confirmé. Le curé avait changé de Saint-Martin. Et alors le curé dit, vous savez pas, on m'a dit à la croix, je pouvais me confirmer, je ne suis pas confirmé. Ah bon? Et non, je suis baptisé depuis il y a 5 ans. Ah oh, il est super, il dit comme ça. Et tu es seul? Non, je vais avec mon copain. Ah, je ne peux pas faire ça. Tu n'es pas en position régulière. Il a changé de paroisse. Oui, mais, c'est-à-dire, il avait été accompagné, même par un gars classique, il avait été accompagné, il avait même intégré, et de derrière, l'autre avait entendu, il n'a même pas réussi à accompagner. C'est pour ça que c'est un travail qu'on a tous à faire. Un autre exemple, je rencontrais dans une session il n'y a pas très longtemps une dame, la cinquantaine, et elle était avec une dame un peu plus âgée qu'elle. Je lui dis, c'est son amie. Je lui dis, c'est votre amie? Non, c'est ma maman. Et la manière où parle à pas, elle ne va pas bien du tout. Je dis, excusez-moi, je vais repartir. Non, elle dit, je ne vais pas vous parler. Je ne vais pas bien parce que l'année dernière, ma copine est morte et le curé n'a pas voulu l'enterrer. Ben, je dis, il avait le droit canon pour lui. Le canon, je crois, c'est 1482 qui dit, si tu vis en état de péché public, je peux te refuser les obsèques. Mais il y en avait la messe tous les dimanches. Donc, on n'y n'a pas le droit. Ça veut dire que cette jeune fille, cette jeune dame, elle, avec sa compagne, elle la messe tous les dimanches, 25 ans, et le curé va l'enterrer, alors qu'il la voyait. Et que la communauté chrétienne avait intégré quasi toutes ensemble, toutes les deux. Il n'y avait plus de scandale. Mais le curé, ben, il n'a pas réussi à dépasser son problème à lui. C'est pour ça dire, c'est entendre que la démarche que le pape demande, c'est une démarche vitale et humaine. Accueillir, accompagner, discerner et intégrer. Et souvent, on bloque au discernement et on bloque à l'intégration. Mais c'est possible de le faire puisque c'est la dynamique normalement qu'a pris toute l'Église. Je pense aussi à cette jeune fille qui me racontait. Pareil, elle retrouve la foi. J'ai fait une retraite avec Devenir un Christ avec des jeunes. Et à la fin, tellement contente, elle vient pleurant, cette fille, 25 ans, elle travaille comme secrétaire dans une banque. Elle retrouve la foi avec sa compagne. Et elle avait l'habitude, elle se confessait tous les mois. Elle se rend compte, un 25 du mois, qu'elle ne s'est pas confessée. Donc, à cet homme, elle va à une paroisse, elle la fermoire se fermée. Le jeune prêtre, tout content de voir une jeune fille venir se confesser, il dit, bien sûr, il se rhabille, elle s'assoit et commence sa confession. Et il voyait qu'elle disait toujours le même nom d'une personne, mais il faut répéter toujours la même personne. C'est pas quand même, vous n'êtes pas toujours avec elle. Elle dit, si, je viens avec elle. Ah, il dit, je ne peux pas vous réconcilier. Mais elle dit, père, j'ai retrouvé la foi grâce à elle. Elle dit, mais je ne peux pas faire ça. Alors du coup, elle a été très forte. Elle m'a dit, père, j'accepte que vous ne me donnez pas le pardon. Mais vous, les amis lesbiennes que vous avez, n'allez plus manger chez elle. Parce qu'il avait dit, mais je les aime lesbiennes, moi, je ne les confesse pas. Elle dit, moi, je demande le pardon de Jésus. Elle dit, je ne demande pas pardon que je vais avec une amie, ça me stabilise. Je demande pardon de ce que je fais de mal avec elle. Et je trouve c'est très beau, cette fille qu'elle. Voilà, à 27 ans, l'aspect mûr de cette personne, je dis, tu l'accueilles, tu l'accompagnes, tu entends ce qu'elle te dit, tu discernes qu'elle a une maturité psychologique et spirituelle, et tu l'intègres, tu lui donnes le pardon de Jésus. Même si la loi, peut-être, peut te dire des choses distinctes. Vous voyez, mais c'est entendre que ces quatre démarches, c'est les démarches de tout croyant, je pense. Alors, voilà, c'est, pour commencer, je voulais nous attirer l'attention sur ça. C'est ces quatre démarches qu'on a à vivre et que souvent, on a du mal. Mais je vais attirer l'attention sur deux démarches qu'ont fait l'Église, les synodes de famille et le synode des jeunes, qui ont posé ces questions des sexualités différentes. Le synode des familles, vous le savez, le pape l'avait convoqué, je pense, en 2014 et 15, deux ans, ils ont eu. Et le pape avait invité donc les cardinaux, les évêques et les laïcs. Et durant les témoignages, il y a une famille australienne qui ont rendu compte de ce qui leur est arrivé. Ils étaient spirituels de Saint-Ignace de Loyola. Et ils ont dit, on a fait une retraite parce que notre fils est avec son copain. Et on a fait une retraite pour savoir si on pouvait l'accueillir pour les fêtes familiales, qui sont les fêtes religieuses. À la fin du discernement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on le reçoive. Eh bien, on le reçoit à la maison, comme notre fils qui vit avec son compagnon. À la sortie, un cardinal hyper de droite et hyper fermé a dit « Scandaleux que le pape fasse parler de gens comme ça, voilà l'Église qui invite le péché à la table de la famille, montrant aux petits les modèles qu'elle n'a pas respectés. » Toujours est-il que le synode a continué à travailler, et vous savez que le pape a autorisé que se publie le texte intermédiaire. Avant la fin du synode, il y a eu un texte avec une proposition de 3 paragraphes. Je vous les lis. Ce n'est pas celui du texte final, mais celui du texte intermédiaire. Accueillir les personnes homosexuelles, ce qui aurait pu être dans le texte, mais qui n'a pas été voté, à 40 voix en moins. Les personnes homosexuelles ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne. Sommes-nous en mesure de recevoir ces personnes, leur garantissant un espace de fraternité dans nos communautés? Souvent, elles désirent rencontrer une église qui soit une maison accueillante pour elles. Nos communautés sont-elles aptes à l'être, acceptant et évaluant leur orientation sexuelle sans compromettre la doctrine catholique sur la famille et le mariage? La question homosexuelle nous provoque à une réflexion sur la façon d'élaborer les chemins réalistes de croissance affective et de maturité humaine et évangélique, en intégrant la dimension sexuelle. Cela est pour le moins un défi éducatif important. L'Église, d'autre part, affirme que les unions entre personnes de même sexe ne peuvent être comparées au mariage entre un homme et une femme. Il n'est pas non plus acceptable qu'on veuille exercer des pressions sur l'attitude des pasteurs ou d'organismes internationaux pour les aides financières en les conditionnant à l'introduction de normes inspirées par des idéologies non justes. Sans nier les problématiques morales en lien avec les unions homosexuelles, nous prenons en considération qu'il y a des cas dans lesquels le soutien mutuel jusqu'au sacrifice constitue une aide courageuse pour la vie des couples. En plus, l'Église est spécialement attentive aux enfants qui vivent dans des couples de même sexe, répétant qu'en premier lieu doit toujours être mis en avant les exigences et les droits des petits. Donc, ces trois textes, il y a eu des débats très forts, à 46 voix en moins, s'y sont pas passés. Le texte a été différent. Je vous dis ce qui est sorti au bout du compte. Il est sorti ce texte-là, dans l'exhortation sur le synode des familles. Certaines familles font l'expérience d'avoir en leur sein des personnes avec une orientation homosexuelle. À cet égard, on s'est interrogé sur les attentions pastorales qui seraient opportunes face à cette situation, en se renférant à l'enseignement de l'Église. Il n'y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, même lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille. Néanmoins, les hommes et les femmes à tendance homosexuelle doivent être accueillis avec respect et délicatesse. À leur égard, on évitera toute marque de discrimination injuste. Ensuite, le deuxième numéro, il est tout à fait inacceptable que des pasteurs de l'Église subissent des pressions, ils reprennent les pressions qu'on peut avoir pour avoir des aides quand on est plus pauvre, si on accepte toutes les pressions idéologiques qu'on veut. Mais voyez, le texte est beaucoup plus pauvre. Mais ils ont quand même dit, ils ont pris la mesure de ce qui se disait. Ensuite, vous avez vu, l'année suivante, vous avez eu le synode des jeunes. Et donc, le synode des jeunes, dans le texte préparatoire, disait, les jeunes donc, qui avaient été consultés pendant presque un an, il faudra que l'Église repense son anthropologie et sa philosophie pour intégrer les personnes aux sexualités différentes. Donc c'était fort comme parole. Et donc pareil, le texte de la fin du synode disait « Il existe des questions relatives au corps, à l'affectivité et à la sexualité qui ont besoin d'avoir une approche anthropologique, théologique et pastorale plus approfondie, à faire dans des modalités et des niveaux appropriés, que ce soit au niveau local ou même universel. Parmi ceux-ci émergent notamment ceux relatifs à la différence et à l'harmonie entre l'identité masculine et féminine et aux orientations sexuelles. » Donc on voit que ça a beaucoup élargi, mais ça traite quand même la question de façon sérieuse dans le texte, parce que c'est la logique. Et voyez, le pape, il est conséquent. Il dit, c'est pas moi qui suis autocrate. Je fais se réunir l'Église, et ensemble, elle discute de toutes les questions qu'elle porte, et elle décide. Parce qu'il faut se rendre compte aussi, par exemple, ils reconnaissent officiellement les couples homosexuels. Il y a plusieurs pays du monde, d'Afrique, d'Asie, qui sanctionnent l'homosexualité par la loi. Ben, l'évêque se retrouve vers la loi. Donc c'est compliqué à savoir comment faire pour avoir un accueil de proximité juste et puis un accueil civil plus compliqué à réaliser. Par contre, le pape, il est clair. Le 24 juillet 2007, il a envoyé un courriel à une sœur, il l'a fait publiquement, une sœur carmélite argentine, en la remerciant de son travail pour les personnes transsexuelles, qui les aide à sortir de la prostitution et des addictions. Et il met dans son courrier, « Je vous conserve, vous et votre couvent, et toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez, vous pouvez le leur dire. » En 2013, le cardinal Gracias, le président de la conférence épiscopale indienne, ils n'avaient pas encore reconnu le mariage. Il disait, à la fin de la conférence épiscopale, « J'ai réfléchi sur la question de savoir si l'Église devait être plus accueillante envers les personnes de la communauté LGBT, plus, donc toutes les questions nouvelles qu'il y a aussi derrière. » Et je l'ai réfléchi il y a déjà un certain temps. J'ai rencontré des groupes et des associations de personnes LGBT, et j'ai beaucoup de compréhension pour eux. Je ne veux pas qu'ils se sentent ostracisés. C'est la raison pour laquelle je me suis exprimé publiquement en faveur de l'abrogation de l'article 377 du Code pénal, celui qui condamne l'homosexualité. Il le dit publiquement, l'archevêque cardinal indien. En 2013, ils ont voté la loi pour changer, en 2015. Le 28 janvier 2015, le pape reçoit un jeune espagnol catholique de 48 ans, né femme. Il est devenu un homme. Il a attendu la mort de sa mère pour faire ce changement, pour ne pas lui faire trop de peine. Il avait écrit à son évêque pour lui confier sa peine de se sentir rejeté par les personnes de la communauté croyante. L'évêque avait eu l'idée de s'écrire au pape, le pape l'a appelé et l'a convoqué à Saint-Omer, dans une rencontre officielle. Ce n'est pas une rencontre cachée. Le 11 mai 2018, le pape a reçu Marin, le jeune Lyonnais blessé alors qu'il défendait deux hommes qui s'embrassaient en public dans la rue. Il a salué le courage de ce jeune, agressé, pour avoir défendu un couple qui s'embrassait. Et le jeune, il est paralysé à vie. Hein. Il marche, mais il aura un handicap permanent. Fin 2018, dans le cas des, toute la cas autour de du Chili, il reçoit le journaliste qui avait porté plainte. Et il lui dit, « Ça m'est égal que tu sois gay, Dieu t'a fait comme ça, il t'aime comme tu es. » Le 30 avril 2020, là, il y a très peu de temps, il a fait par son aumônier le don d'une somme importante pour aider les personnes transsexuelles d'une association romaine qui souffrait du confinement. Les personnes qui étaient travesties, prostituées, n'avaient plus d'argent. Il a offert 10 000 euros pour aider l'association. Et donc on voit le pape au niveau. Il dit, on doit être l'expression de la charité de Dieu. Après, pour l'orientation générale, en église, on va se retrouver pour voir comment on va faire. Il veut pas, c'est pas lui tout seul qui décide. Quand il dit, il n'a pas changé. Si, il fait quand même dans les textes, on voit des inflexions qui montrent que chacun va avoir son espace. Et qu'on travaille avec les textes qui nous structurent pour l'instant, à ce que chacun puisse avoir un espace. Le troisième point, je voudrais vous raconter des petits cas comme ça d'insertion dont j'ai été témoin, à droite ou à gauche, ou à des actions de grâce. Me racontait il n'y a pas longtemps un prêtre d'une paroisse parisienne, il y a maintenant 5-6 ans. Je le rencontrais dans le sud de la France, il était en repos pour quelques jours, et puis je l'ai rencontré pendant ses vacances, et il me disait, en début d'année, je lance une invitation à tous les parents pour commencer la catéchèse. Il y avait une dizaine de parents, la main 5, 4 dames et un monsieur. Et il dit, on commence la catéchèse, et on se rencontre deux des dames, elles étaient en couple. Donc le conseil pastoral nous a dit, il faut qu'on ne dise comme ça, on ne peut pas garder de dames en couple lesbienne à la paroisse. Et ils ont réfléchi, ils ont dit, écoutez, c'est les seuls qui ont besoin pour la catéchèse. On les garde à la fin de l'année. Et si ça ne marche pas, on leur dira qu'on ne reconduit pas le service. À la fin de l'année, le conseil pastoral dit, les meilleurs qui ont travaillé les enfants pour les former à Dieu et à la connaissance, c'est ces deux dames. Et donc les dames sont catéchistes, reconnues. Voilà. Je pense aussi à cette paroisse qui accueille, en Italie, une jeune fille que les parents ont du temps à accepter qu'elle... Ils ne pouvaient pas accepter que leur fille soit comme ça, non, mais ils ne le supportaient pas. Et elle s'est installée à travailler en Italie, et ils sont allés voir, et le prêtre l'a accueillie gentiment, elle est très bonne en musique, elle a une maîtrise de chant. Et les parents ont été retournés en disant, c'est pas possible, notre fille a réussi à trouver un prêtre gentil, et cette fille, ma fille, elle est équilibrée parce qu'elle est contente de pouvoir prier Dieu encore. Donc oui, c'est possible. Il y a plein d'exemples où on voit que c'est possible. Je pense aussi, il y a 3 ans, j'étais dans le sud-ouest à Dax, et il y a une octave à la Vierge Marie. Et me demande le responsable des chrétiens retraités, est-ce que tu pourrais faire une conférence aux personnes ah oui, ça dépend sur quoi. Je voudrais parler sur les périphéries. Alors, je dis, c'est-à-dire, ton ministère avec les migrants. J'étais l'aumônier du Seigneur des migrants. Je dis, t'as beaucoup de personnes de ton association qui sont avec les migrants ? Il dit, personne. Alors, surtout les personnes âgées dans les Landes, c'est des ruraux, les migrants, ils en ont droit en vie. Je dis, mais c'est pas leur problème. Je dis, est-ce que tu crois que je pourrais leur parler des homosexuels, des lesbiennes, s'ils ont des petits neveux, des petites nièces, des petits fils, des cousins qui sont touchés? Il s'arrête, il me dit, pourquoi tu dis ça? Je travaille pendant 15 ans, je peux le faire. Il me dit, mais c'est l'aumônier qui va pas être d'accord. L'aumônier, il est de notre âme de vie, il va être embêté. J'ai dit, fais un repas avec ton aumônier, moi et vous, et on va discuter ce qu'on a fait. Et comme j'ai senti que l'aumônier, parmi les âmes que je prenais, était un peu blessé, j'ai dit, regardez ce que je vais faire. J'ai fait ma conférence, vous corrigez ces hommes qui sont pas adaptés. Et on a fait comme ça. Et j'ai préparé un texte, je l'ai donné devant 900 personnes, toutes entre 75 et 85 ans. À la fin, je ne connaissais pas les silences dans le sud-ouest. J'étais passé un silence d'approbation, de colère, ou de contentement, ou d'émotion. Et j'ai envoyé un petit message au responsable, je lui ai dit, tu sais, j'ai pas su interpréter le silence, je ne suis pas encore spécialiste des silences du sud-ouest, éclaire-moi. Ils m'ont dit, si tu peux me donner ta conférence, 8 équipes sur 10 la demandent pour la retravailler. J'avais trouvé la langue juste pour leur dire, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, vos filleuls, accueillez-les comme ils sont dignes, s'ils sont croyants, s'ils ne sont pas croyants, marchez avec eux, s'ils sont croyants, recevez-les avec ce qu'ils portent. Je pense aussi à ce jeune, un jeune Camerounais, qui était sur Marseille, il retrouve la foi par son compagnon français, Il s'est baptisé dans une paroisse, et puis on a appris qu'il a fait une septicémie, parce qu'il a voulu aller à l'enterrement de son père. Et quand il était à l'enterrement de son père, c'était un styliste. Il avait un magasin de mode qu'il voulait dans son, à Yaoundé. Sa famille lui a amené le repas des morts à son magasin, et ils l'ont pas laissé rentrer à l'église. Au retour, il a fait une infection, il est mort en 3 mois. Eh bien, il a été enterré à l'église là où il était baptisé. Comme les prêtres avaient changé, qu'ils aient du renouveau charismatique classique, ils n'ont pas voulu l'enterrer. Donc un des prêtres qui était au baptême a pu le faire. Oui, c'est vrai. On trouve des passerelles pour montrer que l'Église est capable de cette générosité, même si c'est compliqué. Je pense aussi à ce collègue qui me racontait ça. Un collègue qui me raconte, il fermait la paroisse et puis arrive une dame, il dit « Bonjour mon père, je voudrais passer ma petite. » Oh, il dit « Mais monsieur, venez, on va écrire ça, mais ça ferme, tant pis, j'ai le temps. » Il n'est pas le registre, il dit comme ça. « Votre mari est d'accord ?»« Mais j'ai pas de mari. » »« C'est une petite fille adoptée. » »« Non, 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 c'est avec ma compagne. » C'est votre enfant d'abord. Non, non, par GPA. J'avais déjà écrit son nom dans le livre de préparation. Il dit. Donc, j'ai passé un quart d'heure à expliquer ce qu'on pensait, et on fait le baptême. C'est pour ça que c'est, entendons ces questions. Il était perdu parce qu'il savait ce que dit l'Église sur un GPA avec ses pas. Mais il y avait l'enfant qui était là. Je pense aussi à ce couple de messieurs que je vois il y a 2 ans en vacances. Ils avaient 2 enfants, 2 petits jumeaux qu'ils ont eu par GPA. Très beau, blond. Et à la messe que je fais, le petit dit à son papa. Il a 5 ans, il y a son père, j'entends dire « Papa, pourquoi le monsieur, il a pris le gros Jésus à nous avec le petit ?» Il a dit « J'ai pris la grosse aussi, moi tout seul, et que j'ai avec le petit. » Alors j'ai dit « Les baptisés, ton petit ?» Oui, je les ai baptisés. Il a dit « Le curé a accepté. » Oh, il n'est pas là où j'habite. Il habite Ramatuel. Le curé n'aurait pas voulu. On est monté à la campagne. Alors, et le curé a fait ça très bien. Il a dit « Le curé, comment il a fait pour le registre ?» Il a rayé la femme, il a mis mon mari. Et je dis « C'est possible ?» Il a dit « Vous inquiétez pas, je fais des enfants de Dieu, vous le mettez à l'école privée. Éduquez les chrétiens, le bon livre à le reste. » Le prêtre ne savait pas que l'Église déjà des registres, on peut faire autrement, puisque depuis le mariage pour tous, la conférence épiscopale a proposé des formulaires qu'on peut insérer dans le livre de baptême qui pourraient servir pour intégrer ces situations nouvelles. Vous voyez, je dis, il existe déjà des choses. Après, on se rend compte que ça bloque parce qu'on a encore les textes qui nous bloquent, qu'on n'arrive pas à être dans discerner et intégrer. Les 2 dernières démarches, on a du mal. On arrive des fois à accueillir, souvent, accompagner de temps en temps, mais... discerner et intégrer, on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à discerner ce qui est vital. Voilà. Quelques perspectives. Vous parlez de la paroisse Saint-Méry à Paris, qui a été pendant une paroisse très moderne, qui accueille dans son sein, comme telle, des personnes homosexuelles. Et elle a participé au dialogue pendant la consultation pour le synode des familles, en envoyant une contribution très importante pour aider à repenser la sexualité. Vous avez une paroisse au Canada, la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. Vous avez peut-être vu le très beau film qui a été fait il y a 2 ans d'un couple homosexuel qui danse dans la paroisse. C'est une paroisse qui a eu par l'évêque la mission de travailler au service des personnes homosexuelles. Vous voyez, il y a des évêques qui prennent ces options de dire on va faire un lieu d'église ouvert à cette question. Mais je dis attention à ne pas refaire des lieux entre soi. Parce qu'en faisant un lieu entre soi, on n'écoute pas la question qui est posée. De dire, il y a des personnes différentes, elles existent, accueillons-les. Et je terminerai juste en vous citant un beau texte d'un jésuite nord-américain dont vous avez peut-être entendu parler. Le père Martin. C'est un jésuite américain qui travaille depuis une trentaine d'années avec les personnes homosexuelles. Il a fait un livre l'année dernière, « Bâtir des ponts ». Église LGBT, bâtir des ponts. Et il a fait un très beau texte que je vais vous partager parce qu'il me semble être... dire vraiment, quand on touche cette question-là, qu'est-ce qu'on touche? Je vous invite à vous souvenir de 5 choses. Tout d'abord, Dieu vous aime. Je sais que c'est la base, et même que c'est évident, mais spécialement pour les personnes LGBT qui ne se sentent pas aimées et acceptées par les autres, c'est un regard important. Dieu vous a créé et vous aime. Vous devez vous demander, comment puis-je savoir? Commencez en vous disant, c'est un des messages les plus fondamentaux de l'Ancien Testament et du Nouveau. C'est l'histoire de l'alliance de Dieu, le lien indestructible de Dieu avec le peuple d'Israël. Dieu vous aime, il vous aime, quoi qu'il arrive. Et le Nouveau Testament parle de Dieu qui nous regarde par l'amour de Jésus. La vie de Jésus n'a été qu'amour des personnes, leur demande de connaître combien Dieu les aimait. Aussi simplement, le dit Jean dans sa lettre, Dieu est amour. En plus de ce qui est écrit dans la Bible, pensez dans votre vie à toutes les personnes qui vous aiment, vous acceptent. Et désire ce qui est le mieux pour vous. Ces personnes, c'est l'amour de Dieu qui vient par eux à vous. Comment Dieu agit autrement ? C'est Dieu qui vous aime. Parfois maintenant, personne LGBT, vous pensez, bien, les personnes sont bonnes avec moi, mais je ne suis pas connu. Et si je révèle ma sexualité, personne ne m'aime. C'est vrai dans beaucoup de lieux. Les personnes LGBT sont rejetées pour diverses raisons. Peur, ignorance, préjugés. Tristement, parfois, le rejet est même basé sur les croyances religieuses. Une étude sur les gens sans-abri LGBT aux États-Unis dit que la première raison qui les a conduits à quitter leur maison a été la croyance religieuse de leurs parents. Mais les personnes qui vous aiment réellement vous aiment comme vous êtes en vérité. Même si ça peut prendre du temps pour le découvrir. Deuxièmement, Dieu vous a créé. Vous êtes LGBT. C'est une autre idée importante. Tout psychiatre, psychologue, médecin responsable ne vous dira pas seulement que vous n'avez pas choisi de naître homme ou femme, comme vous n'avez pas choisi de naître hétérosexuel ou homosexuel. Aussi, ne laissez pas les personnes vous rendre coupable de ce que vous êtes. C'est comme être ni gaucher ou droitier. Dieu veut que vous vous connaissiez vous-même et acceptiez le don merveilleux que vous êtes. Comme le dit le psaume 139, « Je t'ai façonné dans le ventre de ta mère. Tu es une merveille. Vous êtes des personnes magnifiques, une création unique. Souvenez-vous, Dieu vous a créé. Il vous connaît, il vous aime. » Troisièmement, Dieu est avec vous. Il y a un beau verset du livre de Jérémie qui dit « Je sais les projets que j'ai faits pour toi, dit le Seigneur. J'ai les projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir d'espérance. » En d'autres mots, Dieu pense de bonnes choses pour toi, pour vous. Il est à vos côtés. Parfois, tu peux te sentir seul dans la vie, mais Dieu t'a créé. Aussi, il veut le bien pour toi. Et Dieu t'a lèvres pour t'aider à ce que cela te survienne. Donc si tu ressens que maintenant la vie est dure, souviens-toi que tu n'es pas seul sur la barque. Tu ne rames pas seul. Il y a quelqu'un sur le bateau avec toi. Il rame dans la même direction. Quatrième chose, Jésus veille sur toi. L'Évangile nous montre Jésus durant son ministère public. Il a recherché spécialement les personnes oubliées, rejetées, marginalisées. Toujours et toujours, Jésus est allé le premier vers les personnes qui se sentaient rejetées. Il a parlé au collecteur d'impôts qui était mal considéré. Il a parlé à la Samaritaine, ce qui ne se faisait pas. Il a parlé au centurion romain, qui n'appartenait pas à la société juive. En plus, il est allé vers les pauvres, les malades. Il leur a parlé, les a écoutés, réconfortés. Où est Jésus aujourd'hui? Eh bien, si tu te ressens comme un hors-jeu, il est spécialement avec toi. En plus, Jésus lui-même a souvent été exclu. Lorsque les personnes le rejetaient. Il a aussi connu ce que tu traverses. Souviens-toi que Jésus veille sur toi avec un amour spécial. Enfin, l'Église est ta maison. Regarde, tu es baptisé. Ça veut dire que tu es une portion d'Église, comme le pape et comme ton évêque, comme ton curé ou moi-même. À ton baptême, Jésus lui-même t'a appelé à être membre de l'Église. Aussi, ne laisse personne te dire autre chose ou tenter de t'éloigner de la grâce des sacrements. Pour cela, il est important que tu trouves la paroisse où tu te sentes bienvenu et qu'ils te reconnaissent comme tu es. Et puis il y a la fin. Et si tu ne peux pas trouver la paroisse accueillante, cherche un lieu spirituel accueillant qui affirme que Dieu t'aime. Ne t'arrête jamais de chercher une paroisse catholique accueillante et ne doute jamais de ta place dans l'Église, même si certains ne peuvent te voir. Souviens-toi que tu es baptisé. Souviens-toi que tu es important pour l'Église, spécialement parce que l'Église connaît davantage les personnes LGBT et elle est invitée à réfléchir à leurs expériences. Dieu vous a créé avec des dons spéciaux et vous a appelé en Église pour cette raison. En d'autres mots, l'Église a besoin de vous. Bonne route à tous. Merci.
Merci au Père Bernard pour son exposé passionnant. Et maintenant, nous allons demander à des parents ce qu'ils attendent de l'Église pour leurs enfants homosexuels et pour eux-mêmes. Donc il y a un couple qui va témoigner devant nous, qui a bien accepté de témoigner.
trop l'habitude de témoigner, donc on va essayer de se lancer.
Oui, donc Claire et Louis, alors c'est assez difficile parce qu'il me semble que pour nous, on est dans un univers avec beaucoup plus de nuances que dans les témoignages que l'on a eus jusqu'à présent ou les cas qui nous ont été présentés. Quand notre fille Jeanne ne nous a jamais dit qu'elle était homosexuelle. Simplement, elle nous a dit un jour « J'aime Anna ». Et c'est un petit peu différent en ce sens que est apparu à nous un amour entre deux femmes sans qu'il y ait un nom. Précédemment, Jeanne avait eu d'autres expériences avec des garçons et j'allais dire, c'était un univers, la sexualité de nos enfants, qui ne nous... que l'on considérait qui ne nous concernait pas, hein, chacun. Et donc, la difficulté que l'on a eue davantage se situe tout à fait à la fin de l'échelle que vous avez dit, père. Accueillir et accompagner, j'allais dire, c'est quelque chose qui nous a paru relativement facile. Par contre, discerner... Là, je dois dire qu'on est sec, quoi. On a vraiment beaucoup, beaucoup de mal. On a une église qui nous a accompagnés. Jeanne était investie comme catéchiste. C'est vraiment moi qui lui ai dit, mais écoute, réfléchis bien quand même. Est-ce que ton témoignage de vie est en accord avec... donc, c'est moi vraiment le ringard dans cette affaire-là. Et...
C'est vrai que notre curé a été très accueillant. Enfin, nous, on n'a pas eu du tout de rejet par rapport à l'Église. Donc la question qui se posait pour nous ce soir, voilà. On était très, très bien accueillis. Jeanne est accueillie.
On a la chance d'avoir une Église tellement pauvre qu'on accueille tous les pauvres. Hein. De ce côté-là, c'est une chance. Hein. Non, Par contre, voilà, comment discerner et puis comment intégrer, intégrer dans le respect de ce que est chacun, hein, c'est-à-dire sans mettre l'étiquette. Là, je pense que c'est important d'intégrer des personnes et pas des classifications de personnes. On n'est pas là pour intégrer des hétérosexuels, des homosexuels, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Comment l'Église est capable d'accueillir les différents membres de l'Église, là où ils en sont. Et là, je dois dire qu'on est... c'est pas simple, quoi. Hein.
Oui. On a déjà beaucoup reçu grâce à ces quatre soirées. On va continuer de demander la lumière, hein, à l'Église et puis aux personnes qu'on côtoie. Mais bon, ce dont on se rend compte aussi, c'est que en campagne, en même temps, il y a des moments difficiles, mais aussi, c'est plus facile peut-être que... moi, je trouve, qu'en ville. D'après ce qu'on vous nous avez dit, on est... Enfin, on se sent plus soutenu. C'est vrai, dans notre église locale, toute simple, on est épaulé. Donc, voilà.
Mais enfin, ce qui reste difficile, effectivement, c'est de voir comment le témoignage de nos vies à chacun d'entre nous est vécu comme tel par notre environnement. Et ça, je pense que c'est vrai dans les petits villages comme dans les grandes villes. L'appel du Christ est exigeant, quoi, je veux dire. Oui. Et il va au-delà des étiquettes.
Voilà. Cette différence qu'on a découvert grâce à notre fille, on peut dire maintenant, nous ouvre aussi aux différences un peu semblables par rapport à la sexualité, mais aussi à beaucoup d'autres différences. Et c'est vrai que en tant que chrétien, c'est important de se rendre compte et de s'ouvrir toujours plus, et d'être plus souple aussi. J'ai entendu ce mot souplesse. Souvent, on est un peu rigide dans nos réactions, et donc de continuer à s'assouplir. Voilà. Et c'est ce qu'on demande à notre Église aussi, certainement, à la fois de nous aider à y voir plus clair, à discerner, mais aussi de nous aider à nous assouplir les uns avec les autres.
Et dans le cas concret de l'homosexualité ou du mariage, en fait, on a passé pas mal de temps à accompagner des couples sur le chemin du mariage. Et c'est vrai que quand notre fille nous a parlé du mot « mariage », pour nous, on a eu beaucoup de mal à accepter même le mot « mariage ». Parce que pour nous, un mariage était hétérosexuel obligatoirement. Et le fait de vouloir apporter une reconnaissance sociale à son engagement avec Anna était pour nous incompréhensible. Qu'on reste dans la sphère de la vie privée, très bien, ça, c'est l'accueil, pourquoi pas. Mais qu'on veuille le faire passer dans la sphère de la vie publique avec une vraie reconnaissance... On disait, mais à quoi bon? À quoi ça sert? Pourquoi? C'est ridicule. Et alors on est allé un petit peu plus loin pour les titiller. Alors on nous a dit qu'il y avait des noces mystiques et des choses comme ça. On a dit, mais on délire complètement. Or, leur demande est vraiment une reconnaissance de l'autre, comme elles sont. Alors là, on ne parlait pas de reconnaissance d'église, on parlait d'une reconnaissance civile. Mais la reconnaissance, en fait, la reconnaissance civile, elle était là. Parce qu'elle voulait une reconnaissance. Le mot choisi était mystique. C'est vous dire que l'on était vraiment dans le monde du religieux. Ouais. Et alors là, on se sentit très démuni. Nous, pour qui la sexualité est liée à la procréation, point. Alors on reste là-dessus, borné là-dessus. Ça nous oblige à reposer des questions tout à fait fondamentales sur notre morale. Et encore une fois, à aucun moment on a pensé qu'il y ait des difficultés pour que notre fille soit accueillie par le Seigneur. C'est vraiment, au niveau de l'accueil, c'est vraiment pas le problème que l'on a vécu. Mais par contre, au niveau du discernement et après de l'intégration, alors là, oui, je dois dire qu'on ne sait pas très bien où on va, là. Voilà.
Oui.
Voilà. Merci de nous avoir écoutés.
Bernard, est-ce que vous auriez un mot à dire à ses parents pour les aider dans leur cheminement? C'était pas prévu normalement.
Je pense que la question de quelle lecture on fait de la vie des personnes. Et est-ce qu'on le fait avec un modèle préexistant ou est-ce qu'on le fait avec ceux qui marchent avec nous? Et on peut très bien reconnaître que la vie habituelle, c'est l'homme et la femme pour avoir des enfants. Et reconnaître que des gens, ils ont un amour différent, et qui vont, cet amour, les structures. Et si cet amour les structures dans la fidélité et la durée, il est significatif d'une humanisation. Donc on peut y reconnaître que Dieu y est présent. C'est-à-dire, un amour qui n'est pas une consommation du corps de l'autre, une relation de fidélité, on reconnaît dans la fidélité exprimée et désirée avec quelqu'un de stable, il y a une relation d'humanisation. Si la personne s'humanise, elle n'est pas loin de Jésus. Et donc, il y a une dignité en son amour qui est reconnaissable. En tout cas, sur lequel la communauté chrétienne peut dire, cet amour est un amour qui humanise, si elle ne peut pas aller plus loin. Vous voyez, c'est vraiment ça. Parce que cette vision qu'on a, on a la vision Monsieur Adam et Madame Ève. Et on sait que cette vision-là, c'est d'abord Dieu ne crée pas l'homme, il crée lui-même, il le crée homme et femme. C'est-à-dire, on a pris l'habitude de la lecture du texte, non pas à la mode juive, mais à la mode philosophique occidentale. C'est pas méchant, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça. Mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, moi, je dis au niveau humain, c'est comme ça que je le ferai. Avant de réfléchir les grandes théories qu'il faut penser, c'est dire, quand on voit des personnes qui s'aiment de façon stable et qui se construisent, vous voyez, à une retraite que je prêchais, vient me voir un jeune et il me dit, le soir de réconciliation, en pleurs, en pleurs, en pleurs, il me dit, il faut que je me confesse. Je dis, non, vous avez mal. il faut que je prie pour vous, je vous bénisse. Non, l'affaire, dans deux jours, je dis, il y aura deux jours pour se confesser. Non, mais je fais des péchés. Il dit, oui, vous en faites certainement, mais là, vous êtes mal. Je vous bénis et on se voit après. J'ai attendu une heure qu'il vienne. Il était parti des forces à quelqu'un, à une personne qui trouvait sympathique, qui était demain de la force. Il vient, il arrive, et puis il en pleure, mais il pleure. Et il me dit, monsieur, depuis 5 ans, j'ai construit un mur. J'ai avalé les clés, et j'ai envoyé mes parents sage où je suis. Je me dis, mon Dieu, tellement de choses que ça me fait peur un petit peu. Je dis, vous avez construit un mur, et vous avez avalé les clés. Il avait dit, oui, et puis ça m'a pleuré. Ben, je dis, si vous les avalez, vous allez les refaire, c'est sûr. J'espère qu'elle est petite, parce que grosse, ça fera mal. Il dit, vous dites ça. Et parce que quand on avale une clé, elle refait. Puis j'ai en attendant, s'il y a des espagnols à vos fenêtres, s'il y a des murs et des fenêtres, ouvrez les espagnols, ça mettra la lumière. Ça le calme un petit peu, il commence à pleurer, il me dit, comme ça, pourquoi vous dites ça? Mais parce que je prends l'image que vous donnez, je dis. Et je dis comme ça, jeune homme, est-ce que vous connaissez les films? Oui. Vous connaissez le film Les Nuits Fauves de Collard? Il me dit oui. Et vous allez au même lieu qu'il va? Et là, il s'arrête, il ferme les yeux, et en pleurs, il me dit, c'est là que je vais. Il dit, non, vous êtes beau, et vous avez bien de tendresse. Le corps à corps, vous vous détruisez. Il dit, la tendresse, je n'ai pas droit. Mais j'ai qui vous a dit ça? La foi chrétienne, je n'ai pas droit à la tendresse d'un homme. Non, je dis, vous détruire en consommant des corps, ça, vous n'avez pas le droit. Dieu vous le demandera à rendre compte. Être aimé, c'est un devoir. Il s'est calmé, il a pleuré. On a continué à parler. Il est venu se confesser le dernier soir de péché qu'il avait fait, mais pas d'aller c'était bon, là. Et puis, il a continué sa vie équilibrée. Il vit avec un ami. Mais il avait retenu que le langage disait, tu vis avec un homme, tu es en péché, donc c'est fautif, il ne faut pas que tu fasses ça. Et il préférait aller se détruire en allant consommer du corps à corps. Mais il s'est vraiment retrouvé. J'ai dit, retrouvons l'équilibre pour aider les personnes à grandir avec ce qui les constitue. Les aider avec ce qui les constitue, qui grandissent. Parce que chacun a un univers particulier.
Merci Bernard. Alors ce soir, vous allez vous remettre, vous êtes assis d'ailleurs en tablée, vous allez vous remettre dans cette tablée pour discuter une vingtaine de minutes sur comment pourrait-on sensibiliser nos communautés chrétiennes à un meilleur accueil des personnes homosexuelles et de leurs familles. Donc j'ai fait un petit papier, pour que c'est long la phrase que je vous ai dit. Donc vous allez réfléchir une vingtaine de minutes entre vous. Et puis voilà, ça c'est pour l'instant.